Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est une histoire d'amour, de séduction et de désir. Mais ce n'est ni du cinéma, ni de la peinture, ni de la littérature, même si toutes ces disciplines artistiques en ont parlé. C'est une histoire de notes, d'accords et de dissonances, mais ce n'est pas de la musique, même s'il est aussi l'affaire d'un compositeur. C'est une histoire de verre ou de résine, mais ce n'est pas de la matière, même s'il n'est jamais loin des métiers d'art. Si vous avez du nez, vous l'avez deviné. De la lettre A comme absolu à la lettre Z comme zut, avec un point d'exclamation s'il vous plaît. Laissons-nous emporter par le moyen de transport le plus rapide, comme le disait avec malice Louise de Villemorin. Vous avez reconnu le parfum. Le dictionnaire amoureux du parfum d'Elisabeth de Feydeau est paru chez Plon, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Elisabeth de Feydeau.
Bonjour Jean-François.
Faire une émission sur le parfum avec un masque sur le nez, c'est quand même pas banal. Vous souffrez pas trop depuis quelque temps, Elisabeth de Feydeau ?
Et si, alors c'est vrai que c'est très curieux, je souffre comme tout le monde parce que je trouve que c'est pas facile tout le temps. Mais ce qui est formidable malgré tout, c'est que cette pandémie, nous a fait prendre conscience encore plus que nous avions un nez au milieu du visage et que cette capacité qu'on a de sentir est primordiale dans la vie.
Oui, en plus, la perte de l'odorat est l'un des symptômes de la Covid.
Absolument, c'est ça. C'est justement, c'est par la perte de l'odorat que certains se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, c'est à la fois terrible et en même temps... une belle prise de conscience aussi que l'odorat est au centre de la vie.
Oui, elle a toujours été. C'est vrai que ceux qui ont été malades disent que c'est extrêmement déstabilisant de perdre effectivement ce sens.
Oui, parce qu'on perd le goût aussi. Et quand on dit qu'on n'a plus le goût de vivre ou qu'on a perdu le goût de la vie, c'est parce qu'on n'a plus d'odorat. Oui. Donc tout est lié.
Il y a eu une entrée épidémie, d'ailleurs, dans le dictionnaire, c'était indispensable. Vous ne pouviez pas faire l'impasse dessus ?
C'était prévu, parce que c'est vrai que à l'origine, le parfum était bien sûr réservé aux dieux, mais aussi était lié aux soins, si vous voulez, au médical. Mais même bien avant les apothicaires parfumeurs, dès l'Égypte ancienne, on a cette fonction du parfum qui est une fonction à la fois thérapeutique, mais aussi pour préserver des maladies et des épidémies. Et on a vu au cours de l'histoire combien le parfum joue un rôle important dans les épidémies. Donc effectivement, j'avais prévu de le dire, mais je ne pouvais pas imaginer que ça allait prendre autant de relief. Et comme je finalisais mon manuscrit au moment, il y a un an, où éclatait cette épidémie, ça a été aussi un peu retouché dans l'écriture.
Comment s'est passée votre rencontre à vous avec le parfum, Elisabeth de Feydeau ? Parce que vous parlez d'une révélation.
Oui, une révélation, parce que je pense que finalement, on dit toujours que la petite enfance est très importante pour la vie, et oui, elle l'est à plus d'un titre, mais c'est là aussi que s'enracinent tous les souvenirs olfactifs. Et mon enfance a été bercée par des odeurs, mais j'en avais peut-être pas forcément la conscience à l'époque. Ma grand-mère avait été élevée en Tunisie, donc elle était effectivement très proche des odeurs, elle cuisinait avec beaucoup d'odeurs, elle avait des concrètes de jasmin, j'entendais aussi les femmes de ma famille se plaindre du sens de l'odorat comme étant quelque chose d'un petit peu pénible quand il est trop développé. Mais la révélation, ça a été le choc avec un parfum. Quand maman m'a emmenée dans une parfumerie pour choisir mon parfum de grande et que tout d'un coup j'étais attirée. D'abord c'était ma vue en fait qui a été attirée par des flacons que je trouvais magnifiques. Et ensuite évidemment je lisais le nom des parfums et ces noms étaient très poétiques. Donc comme j'étais une élève plutôt littéraire et que je préparais un bac littéraire, c'était forcément les noms qui m'ont attirée. Et ensuite tout d'un coup l'odeur. Et cette odeur qui m'a transportée aussi fortement que quand mon professeur de piano me jouait des mesures, les premières mesures d'un morceau, et que je savais immédiatement si j'avais envie ou pas de l'étudier. Et ça, ça a été la même force. Et cette vibration, puisque c'était véritablement une vibration, m'a interpellée au point où je me suis dit « mais j'ai envie de comprendre pourquoi ?» Pourquoi ? Et c'est là où je suis arrivée peu à peu à vouloir entrer dans la matière.
Le parfum, il parle d'une culture, Elisabeth de Feydeau ?
Oui. D'une culture, d'une civilisation.
D'une époque aussi.
D'une époque. Bien sûr, le parfum, c'est le reflet d'une société en marche. C'est à la fois le désir et l'anxiété d'une société. C'est le fantasme. c'est la frustration, ça veut dire beaucoup de choses, le parfum. Quand on parle des modes, des tendances, c'est plus profond que ça, si vous voulez. Parce que le sens de l'odorat, il faut bien garder ça en tête. C'est que c'est le premier qui se développe chez l'être humain. On pense même qu'on sent dans le ventre de sa mère. Mais à l'origine de l'humanité, c'est le sens qui nous alertait du danger. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on dit « je le sens pas » ou « ça pue », vous voyez, c'est ça, c'est que ça nous ramène à cette fonction première du sens de l'odorat. Ce bel art qui naît de ce sens, eh bien, il va aussi nous parler de toutes nos peurs, de tous nos rêves aussi qu'on peut avoir.
Mais l'odorat, c'est un sens inné ou c'est un sens qui s'éduque ?
Les deux. Les deux, c'est-à-dire qu'il est inné et c'est le seul sens qui ne décline pas avec l'âge. La seule chose, c'est qu'on n'en a pas conscience. Et ça, c'est aussi très important, c'est que nos sociétés occidentales, et toute l'histoire de la philosophie, j'en parle dans le dictionnaire, en parle très bien, c'est que il a été jugé trop proche de l'instinct, trop proche de l'animalité, et donc on ne le cultive pas. On ne muscle pas nos narines, comme on dit en parfumerie, suffisamment pour justement s'ouvrir toutes ces portes du rêve, tout ce sens de l'imagination, comme le disait Rousseau, qui est formidable quand on le maîtrise, parce qu'on s'évade.
J'ai deux amours, Joséphine Baker. Évidemment, vous avez reconnu le thème, Elisabeth de Fedeau. Vous lui consacrez une entrée, hein, d'ailleurs, dans votre dictionnaire amoureux du parfum. Pour quelle raison ?
Parce que tout d'abord, c'est un très beau souvenir de tournage avec Christine Bravo pour l'émission Sous les jupons de l'histoire que l'on avait consacré à Joséphine Baker dans son château des Milandes. Et un endroit chargé de vie encore, incroyable. Et donc, entre deux plateaux, j'allais regarder un petit peu, j'allais visiter les lieux et tout d'un coup, bien sûr, j'entre dans la salle de bain. Et dans cette salle de bain se trouvaient encore des flacons de parfum. Et de là, on entre dans l'intimité de cette femme qui a été en plus une femme incroyable, extraordinaire, une résiliente quelque part, une résistante aussi. Et le choix de ces parfums n'était pas neutre, évidemment. Donc c'est pour ça que j'ai voulu lui consacrer cette entrée. Parce qu'en plus, elle a été aussi, par rapport à l'histoire de la femme, une figure très importante. Elle a inspiré des parfumeurs, notamment Jacques Guerlain, avec son parfum Sous le vent, qui lui consacre. Elle a aussi donné son nom à un produit de beauté, le Baker Fix, hein, qui était lié à sa coiffure. Elle a été une très très belle femme. Elle a incarné beaucoup beaucoup de thématiques liées à la féminité et au féminisme.
Et puis incarnation de l'époque qu'on appelle les années folles, une sorte d'âge d'or de la parfumerie française.
Absolument, elle arrive à cette Vénus noire, hein, comme l'appelait Colette. Elle incarne les années 20 qui ont été cette entre-deux-guerres fabuleuse pour la parfumerie, parce que parmi les plus grands parfums toujours présents aujourd'hui, ils sont nés dans ces années-là. Je pense au numéro 5 qui fête ses 100 ans cette année. Je pense à Chalimard de Guerlain de 1925. Je pense à Arpège de l'an 20. Enfin, à beaucoup beaucoup de parfums. C'est un âge d'or. C'est une période de frénésie. Une créativité incroyable.
C'est une spécialité française, la parfumerie ?
Alors oui et non, parce qu'il n'y aurait pas de parfum sans Orient. L'Arabie heureuse a nourri beaucoup de rêves, hein, dans l'Occident. Mais oui, parce que à l'époque où on peut remonter au XVIIe siècle, à l'époque où Colbert va mettre en place cette politique mercantiliste qui pousse à valoriser les entreprises les plus prometteuses, en fait, en France, eh bien, il y a le parfum, il y a la parfumerie. Donc, les maîtres gantiers parfumeurs vont être nantis de beaucoup de privilèges avec ce devoir de créer et d'exceller. Et c'est là où va se mettre en place véritablement la réputation de la France, dont la France hérite des savoir-faire orientaux, bien sûr, qui lui arrivent de par l'Italie, l'Espagne, et notamment l'Italie avec un siècle avant Catherine de Médicis. Et donc, cette communauté des gantiers parfumeurs obtient ces privilèges et obtient aussi cette suprématie. On voit Catherine la Grande commander à des parfumeurs français ses parfums. Et donc le 18e et cet âge d'or de la parfumerie, la cour de Louis XV et la cour parfumée, donc se dégage peu à peu de l'apothicairerie qui restait encore quand même sous Louis XIV. Et au 19e, évidemment, on a la libre entreprise, puisque la Révolution française va instituer donc la fin des communautés et l'instauration de la libre entreprise. Mais ces nouvelles sociétés, ces nouvelles maisons de parfumerie s'inscrivent dans cet héritage corporatiste d'excellence, d'exigence. On le voit très très bien, par exemple, avec la maison Guerlain, qui naît en 1828. Pierre-François Pascal Guerlain, qui se réclame d'ailleurs d'avoir appris son métier auprès du parfumeur de Marie-Antoinette, Jean-Louis Fargeon, à qui j'avais consacré une biographie. Et on voit toutes ces maisons au Bigan, Gelé, etc., qui sont ces grandes maisons du 19e et qui vont faire rayonner la parfumerie française partout dans le monde, parce que ces expositions universelles, qui sont des lieux des vitrines en fait finalement pour le savoir-faire français, eh bien les parfumeries, les parfumeurs français raflent toutes les plus grandes médailles d'or. Donc c'est là vraiment que s'enracine cette tradition de la parfumerie française, de son rayonnement. Et puis bien sûr le XXe siècle continue sur cette même lancée.
Alors enracinement d'abord à Montpellier, Jean-Louis Fargeon est de Montpellier, hein, je parle sous votre contrôle. Et ensuite c'est Grasse.
Alors c'est en même temps si vous voulez, mais ces deux villes sont vraiment deux villes importantes pour le parfum dès le Moyen-Âge.
Pourquoi là ?
Parce que c'est dans le sud de la France déjà, et parce que c'est proche aussi de tous ces lieux de commerce qui reçoivent, notamment le port de Sète, Marseille, qui vont recevoir ces matières qui viennent d'Orient. C'est l'Orient, une fois encore, qui est vraiment cette zone qui apporte le parfum, non seulement par les matières, mais aussi par les savoir-faire. Ça, on le voit très très bien avec les navigateurs arabes au Moyen-Âge, qui ont le monopole non seulement du savoir, mais aussi du commerce. Et puis ensuite, ça va être relayé par deux centres principalement, à la fois l'Espagne et l'Italie. Et la France va hériter de ces savoir-faire pour le transformer. Et comme le disait Talleyrand, quand on a été femme à Paris, on ne saurait l'être ailleurs. C'est-à-dire que c'est aussi toute l'élégance, tout ce bon goût français, on en parlait tout à l'heure, hein, cette cour des rois aussi à Versailles, qui va transformer ce produit en un produit d'élégance, d'équilibre, de perfection quelque part.
Alors, vous citez toute une liste de créateurs de parfums. Certains sont de Montpellier, certains de Grasse, certains de Paris. On va pas tous les citer parce qu'il faudrait plusieurs émissions pour arriver au bout de la liste. Mais vous racontez à chaque fois leur parcours respectif, leurs apports à la parfumerie, leurs créations les plus marquantes. Et souvent, pas toujours, mais souvent, Elisabeth de Feydeau, la haute couture n'est jamais très très loin de la parfumerie. D'où vient cette association entre
les
deux ?
Là encore, elle est très ancienne. Parce que quand on reprend l'histoire de la corporation des gantiers parfumeurs, le métier de parfumeur était un métier secondaire à celui de gantier qui s'apparentait donc au métier du cuir, mais plus largement au métier de la mode.
Donc, faut peut-être expliquer pourquoi d'ailleurs. Quel est le lien entre le gant et le parfum ?
Alors, au début, c'est très prosaïque. Hein. C'est parce que quand on tanne les peaux, à l'époque, enfin au Moyen-Âge, d'ailleurs c'est un héritage oriental, une fois encore, on va utiliser des matières qui sont les crottes de chien, l'urine de cheval, les excréments humains aussi, qui ont des propriétés chimiques naturelles de tanner les peaux. Vous imaginez l'odeur que ça laisse, hein. Quand même pas très.
Non, c'est pas plus agréable.
C'est pas plus agréable que ça. C'est d'ailleurs pour ça que les quartiers des tanneurs étaient en général en périphérie des villes et proches des fleuves pour pouvoir aussi laver les peaux. Et donc, comme ces matières laissaient sur la peau des odeurs très fortes, il fallait provoquer un choc des titans pour enlever ces odeurs nauséabondes. Et du coup, il avait été imaginé qu'en pratiquant des bains de senteurs, ça allait pouvoir retirer cette odeur. Donc, vous voyez, on préparait, donc, selon la méthode orientale, des bains à partir d'eau de rose, de beaucoup d'épices, des résines, etc., pour faire macérer les peaux et ensuite les faire sécher à l'air. Et puis ensuite est arrivée la mode des gants parfumés avec Catherine de Médicis, où là, on enfleurait la peau avec une odeur, un parfum qui était choisi par la personne à qui la commande des gants était destinée. Et donc forcément, Cette idée donc du gant parfumé qui laisse une trace, sillage, si vous voulez, a permis en France à ce que d'autres métiers de la mode se rattachent à ça. Donc les lingers, les corsetiers, et puis peu à peu, on le voit très bien dans le tissu industriel du 19e siècle, hein, le parfum, bien sûr, prime dans les inventaires des gantiers pour ensuite le remplacer totalement et puis devenir une activité à part entière. Mais on va trouver un éclatement du métier parmi tous ces petits métiers de la mode. Rose Bertin, qui était la modiste de Marie-Antoinette, demande à Jean-Louis Fargeon de lui parfumer ses fleurs artificielles pour qu'elles aient l'air du naturel. Mmh. Vous voyez, donc, c'est des métiers qui sont très très proches comme ça. Et le premier véritablement à avoir scellé cette alliance ancestrale du luxe, c'est Paul Poiret en 1911 avec ses parfums de rosine. Mais là, il avait fait une erreur, c'est que il avait appelé les parfums de rosine du nom d'une de ses filles, alors que son activité de couture était Paul Poiret. Et c'est Chanel qui, elle, va comprendre la puissance de l'association des mots et va fonder véritablement cette alliance avec les parfums Chanel en 1924.
Et c'est précisément avec le numéro 5, hein, donc incontournable, voilà, évidemment, parfum de chez Chanel, que vous ouvrez votre dictionnaire. Alors, vous auriez pu le classer à la lettre N. Pourquoi vous avez préféré commencer par le 5?
Eh ben, c'est mon éditeur qui m'a dit qu'il y avait une tradition dans le dictionnaire amoureux, c'est que tous les nombres se retrouvaient en tête. Et il se trouve, là encore, le numéro 5 a toujours été facétieux. Eh bien, normalement, s'il n'y avait pas eu cette pandémie, le dictionnaire amoureux serait sorti en 2020. Et là, il sort en 2021, soit pile poil 100 ans après la naissance du numéro 5. Donc, c'est plutôt bien d'ouvrir ce dictionnaire amoureux avec un des parfums les plus mythiques de la parfumerie et qui fête ses 100 ans cette année-là.
Comment vous expliquez son succès incroyable? Qu'est-ce qu'il a de si particulier?
Ben, beaucoup de choses. Alors là, on pourrait aussi consacrer une émission entière au numéro 5 parce que c'est un parfum absolument incroyable. Justement parce qu'il est devenu un mythe. Il est devenu un mythe parce qu'il se rattache à une personnalité légendaire comme celle de Gabrielle Chanel, qui incarne non seulement la libération de la femme, mais aussi une figure féminine extrêmement attachante, tout en étant à aspérité aussi, hein. C'est quelqu'un qui a une véritable personnalité. C'est un parfum qui ne se démode pas. C'est un parfum qui reste toujours incroyable, mystérieux, comme je le dis. C'est pour moi le sourire de la Joconde. C'est-à-dire qu'on peut rester des heures devant et on ne percera jamais totalement son mystère. Et c'est bien ça, la force du numéro 5.
Alors le nom d'un parfum, c'est aussi très important, ça participe de son image, j'ai presque envie de dire que ça participe de son odeur, Elisabeth de Feydeau.
Bien sûr, parce que moi j'ai pu le vivre au travers de mon histoire personnelle, c'est d'abord le nom du parfum qui m'avait attirée, et ensuite...
C'est-à-dire la sonorité, l'écriture, mot sur le flacon.
La promesse en fait, la promesse du nom. Le nom, c'est toujours une promesse, et ça m'a donné envie de le sentir. Mais ça aurait pu être l'inverse aussi, j'aurais pu être attirée par l'odeur, et ensuite, le nom allait confirmer ou pas l'attachement que je pouvais...
Alors, par exemple, il y a un parfum qui s'appelle Zut.
Oui.
Schiaparelli.
Ouais.
Voilà, ça veut tout dire en même temps, Zut, c'est quand même tout de suite une personnalité qui s'exprime avant même de le sentir.
L'expression préféré de Schiaparelli, à ce qu'on m'avait dit. Et puis, oui, vous vous dites à un moment donné, tiens, ça correspond à mon état d'esprit. J'ai envie de voir, enfin, j'ai envie de sentir ce que
oui,
ça sent.
Oui. Et, curiosité.
La curiosité. Après, la curiosité, elle va être, satisfaite ou au contraire...
Oui, c'est toujours un risque. Hein.
C'est toujours un risque à prendre. Mais c'est vrai que ça peut être une des entrées du parfum. Ensuite, l'entrée qui, de toute façon, fait que vous rachèterez ce parfum, c'est son odeur.
Poison de Dior, ça aussi, on pourrait penser que c'est un risque.
Oui, bien sûr, mais vous savez que le risque, c'est toujours quand même très tentant, quand même. Et c'est vrai que poison, c'est une vieille histoire liée au parfum. Hein, le parfum est le poison du cœur, avait dit Paul Valéry. Mais quand on remonte à la Renaissance... Parfum, poison, c'était quand même assez proche comme notion. Et même encore sous l'Antiquité, on savait que les parfums pouvaient cacher des poisons également. Donc, ces deux notions qui sont de tout de même très... qui flirtent bien ensemble. Et c'est le côté un petit peu dangereux aussi de la matière qui attire toujours. On a toujours envie de ça, un peu de se pervertir.
Alors, il y a l'odeur, il y a le nom, et puis il y a aussi le flacon. Et vous citez d'ailleurs le flacon, le poème de Baudelaire.
Il est de fort parfum pour qui toute matière est poreuse. On dirait qu'il pénètre le verre en ouvrant un coffret venu de l'Orient dont la serrure grince et rechigne en criant. Ou dans une maison déserte, quelque armoire, pleine de l'âcre odeur des temps, poudreuse et noire, parfois on trouve un vieux flacon qui se souvient, d'où jaillit toute vive une âme qui revient. Mille pensées dormaient, chrysalides funèbres, frémissant doucement dans les lourdes ténèbres, qui dégagent leur aile et prennent leur essor, teintées d'azur, glacées de rose, lamées d'or. Voilà le souvenir enivrant qui voltige, dans l'air troublé les yeux se ferment. Le vertige saisit l'âme vaincue et la pousse à deux mains, vers un gouffre obscurci de miasmes humains. Il la terrasse au bord d'un gouffre séculaire où Lazare, odorant, déchirant son suaire, se meut dans son réveil le cadavre spectral d'un vieil amour ranci, charmant et sépulcral. Ainsi, quand je serai perdu dans la mémoire des hommes, dans le coin d'une sinistre armoire, quand on m'aura jeté, vieux flacon désolé, décrépit, poudreux, sale, abject, visqueux, fêlé. Je serai ton cercueil, aimable pestilence, le témoin de ta force et de ta virulence. Cher poison préparé par les anges, liqueur qui me ronge, ô la vie et la mort de mon cœur.
Le flacon, texte de Charles Baudelaire, Elisabeth de Feydeau. Le flacon, c'est quand même très important, quoi. C'est presque aussi important que la fragrance.
Oui, alors ça aussi, c'est récent. Tout est dit dans ce poème de Baudelaire, hein, c'est absolument extraordinaire. Mais ça, c'est récent parce que pendant des siècles, hein, on a d'abord eu des flacons à parfum. C'est-à-dire que c'était des flacons qui étaient destinés, bien sûr, à recevoir du parfum, mais
un l'un parfum. Ou l'autre.
Voilà. Oui. Et puis, avec la naissance de l'industrie et la naissance donc du marché et de la marque, là, on a eu des flacons de parfum. Et effectivement, ils étaient tous, quand vous allez, il y a un très bel endroit à visiter à Paris, c'est le musée des parfums, le musée Baccarat, ou à Grasse, hein, le musée international de la parfumerie, qui sont des lieux formidables quand on s'intéresse à la question. Eh bien, vous pouvez voir que ces premiers flacons de parfum étaient assez similaires, que c'est plutôt les étiquettes qui les distinguaient les uns des autres. Et puis ensuite, il y a eu une personnalité incroyable pour la parfumerie qui est François Coty, qui en 1904 va lancer sa marque et va déclarer qu'un parfum est objet avant d'être senteur. Et pour cela, le flacon de parfum doit déjà parler, doit déjà expliquer à la vue ce que le nez va sentir. Et c'est très fort parce que Coty avait une autre stratégie qui était de démocratiser le parfum, c'est-à-dire de présenter un plus grand nombre. Et on sait que l'odorat n'est pas forcément le sens, même s'il est inné et très profond dans l'homme, il n'est pas forcément le plus accessible. C'est-à-dire que les personnes ont quelquefois du mal à sentir. Et il avait bien compris que pour cela, il fallait que l'objet d'abord attire l'œil pour qu'ensuite la personne achète le parfum. Mais ce que l'on sait, c'est que ça, c'est l'achat, le premier achat. Mais en tout cas, ce qui fait que vous vous attachez à un parfum, c'est son odeur.
Donc, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, si c'est bucé,
oui.
C'est pas totalement faux.
Non, pas du tout. Parce que ça va partir, si vous voulez, l'odeur touche la partie la plus archaïque de votre cerveau, qu'on appelle le cerveau la partie limbique du cerveau, et qui va vous donner immédiatement le « j'aime pas ». Et ça, vous ne le savez pas forcément pourquoi. C'est une part inconsciente de vous. Ensuite, vous pouvez bien sûr remonter les arcanes hein, de tout cela. C'est une sorte de, entre guillemets, de psychanalyse par l'odeur. Mais c'est immédiat. Et de même qu'une odeur peut aussi vous rendre malade, vous faire vomir. Donc, si avec ce parfum, qu'au bout d'un moment, vous ne sentez plus, et heureusement, parce que si... vous souvenez, le parfum, c'est le sens du danger, primitivement. Donc, une fois que l'odeur est familière, le cerveau ne vous envoie plus de signal. Tant mieux pour nous, parce que sinon, on serait en permanence avec cette odeur, ça deviendrait obsessionnel. Mais quand vous êtes bien avec un parfum, quand vous vous sentez bien, quand ce vêtement de peau vous habille de manière élégante et que les personnes aussi autour de vous vous font compliments ou pas, mais vous vous sentez bien... c'est que l'odeur est parfaitement celle qu'il vous faut. Et donc, vous allez racheter ce parfum pour vous sentir dans cet état-là.
Alors le parfum est très présent dans la littérature en général, dans la poésie en particulier. Vous citez Aragon, Baudelaire, on vient d'en parler. Vous citez aussi Colette, Balzac et son marchand parfumeur César Birotteau, Nana, l'héroïne d'Émile Zola. C'est très romanesque le parfum.
Ah bah oui, c'est très romanesque. C'est ce que je vous dis. Rien qu'un nom, ça vous transporte. Une odeur également. C'est un champ ouvert pour tous les rêves, tous les désirs aussi. Donc forcément, le parfum a toujours habité la littérature. Depuis, on le voit dès l'Antiquité, les écrits de l'Antiquité déjà citent le parfum, mais c'est avec Baudelaire qu'on a cette citation beaucoup plus sensorialiste, beaucoup plus subjective aussi dans la littérature, et à partir de là, on a une forme plus personnalisée en fait de l'odeur. Avec quelques écrivains qui sont qualifiés d'olfactifs, comme notamment Zola, qui a même fait l'objet d'une thèse en médecine.
Alors, il y a un roman qui s'appelle tout simplement Le Parfum, qui est quasiment, pas contemporain, mais presque. Il a été écrit en 1985 par l'écrivain allemand Patrick Süskind. Il a remporté un immense succès populaire. En voici quelques lignes. Le personnage principal, Jean-Baptiste Grenouille, croise une jolie rousse dans une rue de Paris.
Sa sueur fleurait aussi frais que le vent de mer, le sébum de sa chevelure aussi sucré que l'huile de noix, son sexe comme un bouquet de lys d'eau, sa peau comme les fleurs de l'abricotier. Et l'alliance de toutes ces composantes donnait un parfum tellement riche, tellement équilibré, tellement enchanteur, que tout ce que Grenouille avait jusque-là senti en fait de parfum, toutes les constructions olfactives qu'il avait échafaudées par jeu en lui-même, tout cela se trouvait ravalé d'un coup à la pure insignifiance. 100 000 parfums paraissaient sans valeur comparés à celui-là. Ce parfum unique était le principe supérieur sur le modèle duquel devaient s'ordonner tous les autres. Il était la beauté pure. Pour Grenouille, il fut clair que, sans la possession de ce parfum, sa vie n'avait plus de sens. Il fallait qu'il le connaisse jusque dans le plus petit détail, jusque dans la dernière et la plus délicate de ses ramifications. Le souvenir complexe qu'il pourrait en garder ne pouvait suffire. Ce parfum apothéotique, il entendait en laisser l'empreinte, comme avec un cachet, dans le fouillis de son âme noire, puis l'étudier minutieusement, et dès lors se conformer aux structures internes de cette formule magique pour diriger sa pensée, sa vie, son odorat. Il s'avança lentement vers la jeune fille, s'approcha encore, pénétra sous l'auvent et s'immobilisa à un pas d'elle. Elle ne l'entendit pas. Elle était rousse et portait une robe grise sans manches. Ses bras étaient très blancs et ses mains jaunies par les mirabelles qu'elle avait entaillées. Grenouille était penché au-dessus d'elle et aspirait maintenant son parfum sans aucun mélange, tel qu'il montait de sa nuque, de ses cheveux, de l'échancrure de sa robe, et il en absorbait en lui le flot comme une douce brise. Jamais encore il ne s'était senti si bien.
Le parfum qui a été adapté au cinéma en 2006 par Tom Tykwer, un sacré tour de force que vous saluez d'ailleurs, Elisabeth de Feydeau. Précisons que le héros du livre, on le sait rien qu'en lisant le titre, est un meurtrier, c'est le sous-titre du livre. Et on sent dans les lignes qu'on vient d'entendre le caractère érotique et sulfureux que peut prendre le parfum, une odeur. Le sexe, en fait, n'est jamais très très loin.
Non, absolument. Et puis, le parfum, c'est à la fois l'éros agapé et l'éros thanatos, si vous voulez. On est dans les deux phases de l'amour. Donc, forcément, dans le parfum, vous avez l'amour, parce que c'est... À la base, c'était une offrande qu'on faisait aux dieux, une séduction aussi, parce que les anciens pensaient que c'était une façon d'amadouer les dieux, que de leur envoyer des fumées odorantes qu'elles allaient les nourrir, donc ils allaient être ensuite bienveillants envers l'humanité. Et puis, c'est aussi bien sûr une séduction, au sens de conduire l'autre à soi par son odeur, par le fait que cette odeur n'est pas... l'odeur naturelle, mais on va l'enjoliver. On sait bien que le naturel ne séduit pas, il faut un peu d'artifice quand même. Et puis bien sûr, c'est de l'érotisme et du sexe, rien que par les matières premières, tout simplement. Il y a certaines matières qui ont des relents de sexe absolument incroyables. Je pense bien sûr aux matières premières animales, que ce soit le musc, le tonquin, l'ambre gris, le castoreum, ou la civette, qui ont vraiment ces odeurs de ces odeurs sexuelles, tout simplement. Et puis aussi, même certaines fleurs blanches qui ont cette note, cette molécule qu'on appelle l'indole, et qui, là aussi, est une note non pas sexuelle, mais qui a l'odeur du sexe.
Oui, d'ailleurs, certains font un lien entre le parfum et le péché. Oui. Vous évoquez d'ailleurs Adam et Ève. Alors, il est dans la Genèse, le parfum, à part le parfum de la pomme.
Il est bien sûr dans la Genèse, parce que la Genèse, donc, qui est un texte biblique, est une promesse, et puis aussi une légende qu'on va retrouver dans plusieurs religions monothéistes. Et on a cette idée que, effectivement, il y a ce texte très amusant que je cite de Saint Avitus, hein, qui met en scène le serpent, donc incarnant le diable, qui n'arrive pas à séduire Ève. Les paroles flatteuses, la vue du beau fruit, rien n'y fait. Tout d'un coup, il a l'idée de tremper le fruit dans un parfum délicieux. Et là, c'est l'odorat qui fait défaillir Ève. Donc vous voyez déjà cette idée très forte. Mais on peut lire ensuite que dans sa grande bonté, Dieu va autoriser Adam et Ève à emporter du paradis perdu, qui est cette symbiose absolue harmonieuse entre l'homme et le cosmos, d'en emporter uniquement les parfums. Donc vous voyez, les parfums, c'est à la fois les témoins de ce paradis, de ce jardin d'Éden, mais c'est aussi ce qui va permettre de relier le ciel des dieux avec la terre des hommes. C'est le moyen que les hommes ont trouvé pour renouer la relation rompue.
Ta peau n'est pas étanche, elle coule de désirs, de trop longues absences et d'envie tu soupires. Si je m'affaiblis, que je ne tiens plus debout, allonge mon corps ici, tout en haut du ventoux. Tu pleures avant les neiges de décembre, avant que ne fanent les fleurs. Je veux mourir maintenant et renaître au printemps. Je veux mourir maintenant et renaître au printemps. Ta peau toujours si blanche au soleil va noircir les fruits sur cette branche, au soleil vont mûrir. Et je m'affaiblis, oh, je ne tiens plus debout, allonge mon corps ici, tout en haut du ventoux. Et couvre-moi de la vente et de celle si tu pleures.
La lavande, pomme dans VMDN sur RFI. Comment est-ce que vous pouvez nous décrire le parfum de la lavande, Elisabeth de Feydeau? C'est difficile de mettre des mots sur un parfum.
Ça dépend déjà si vous sentez la lavande dans un champ ou si vous la sentez en matière première. Oui, évidemment aussi sous la forme de notre cologne parfumée à la lavande. Mais la lavande, c'est un parfum qui est délicieux. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, parce qu'évidemment, c'est toutes nos petites madeleines de Proust. Hein, c'est associé au linge, c'est associé au propre. D'ailleurs, le mot lavande vient de lavarer, hein, laver. Donc, c'était l'eau qu'on mettait, c'était l'essence qu'on mettait dans le bain au Moyen-Âge, dès le Moyen-Âge, pour désinfecter, parce que la lavande a un pouvoir antiseptique très important. Alors moi, je dirais que c'est un côté très, bien sûr, aromatique, hein, très herbacé, mais c'est aussi très camphré, très presque même balsamique, puisque c'est assez rond comme parfum, et c'est une très jolie note.
Alors, on peut aussi jouer au jeu des sept familles, parce que, alors, sept familles ou sept accords, on peut dire les deux, c'est exactement la même chose?
Oui,
ou pas?
C'est, oui, tout à fait, oui, c'est à peu près ça. C'est, alors, il y a différents classements selon les traditions, mais globalement, on peut, je trouve, reprendre cette classification qu'en avait fait la Société française des parfumeurs, et qui est assez bien faite et qui s'appuie sur les accords traditionnels.
Voilà, donc la lavande, c'est donc dans la famille des floraux.
Oui. Oui, oui.
Oui, oui. Ah, c'est pas si évident que ça.
Si, parce qu'elle peut être aussi dans les. La lavande, c'est aussi dans les fougères, puisque ça fait partie.
Dans les aromatiques, ouais.
Voilà, dans les aromatiques, exactement. C'est une des notes constitutives du l'accord fougère.
Bon, il y a les boisés, alors il y a les parfums ambrés,
oui.
Il y a les cuirs, alors là on revient peut-être effectivement...
Alors les cuirs c'est plutôt une sous-famille, vous voyez, c'est souvent associé à une note Chypre ou à une note en... ça dépend de la famille principale.
Alors la note Chypre, alors ça veut dire quoi, la note Chypre? Alors, c'est pas un mot qu'on emploie tous les jours en dehors de la parfumerie. Hein.
Exactement, Chypre c'est une île, bien sûr l'île de Chypre, hein, qui était connue... dès l'Antiquité, pour être un point de, très important de carrefour dans le commerce des matières aromatiques, justement. Et puis, c'est aussi l'île de naissance de Vénus, quand même, qui est la déesse des parfums, hein, qui est la déesse de l'amour, mais bien sûr, la déesse du parfum, c'est pas un hasard, ça, non plus. Et puis, c'est aussi une eau, l'eau de Chypre, qui était la spécialité d'un monastère de l'île de Chypre, qui fabriquait donc cette eau dès le Moyen-Âge. Et elle avait une particularité, disait-on à l'époque, c'est que cette eau était faite pour des gens qui raffinaient beaucoup d'intelligence. C'est les mots aussi de l'époque. Oui. Et qui était tout simplement un accord qui tournait autour de la bergamote, autour donc de la note bergamote, mousse de chêne. Et puis, peu à peu, cédra aussi. Et peu à peu, donc, elle va s'enrichir avec la lavande, avec l'iris, des notes poudrées. Enfin, chacun va y mettre un petit peu le patchouli aussi. Mais on doit surtout, parce qu'on a des eaux de Chypre au 19e, hein, on le retrouve chez Guerlain, chez Pivert, etc., avec des petites nuances, avec du jasmin, avec voilà différentes nuances, mais avec toujours ce côté à la fois clair et moussu, si vous voulez. C'est un clair-obscur, hein, le Chypre. Moi, je dis que c'est toujours... c'est un tango, c'est assez Hitchcockien, c'est un côté feu sous la glace. Mais celui qui va moderniser l'accord, c'est François Cottier en 1917, en créant son Chypre, qui est une véritable bombe en pleine Première Guerre mondiale, et qui sera pas forcément reconnu dans l'entre-deux-guerres, mais qui va vraiment être très à la mode après la Seconde Guerre mondiale. Et cette facette androgyne qu'a le Chypre lui donne aussi tout son mystère.
Oui, alors justement, puisque vous parlez d'androgynie, ça peut surprendre, parce que vous expliquez, et c'est vrai qu'on parle quand même beaucoup de parfums au féminin depuis le début de l'émission, mais vous expliquez que la question du genre n'en est pas une en matière de parfumerie. Ça, vraiment, ça peut surprendre, non?
Oui, moi je pense qu'il n'y a pas de genre dans le monde des fluides. Si vous voulez, c'est à la limite, si on considère que le parfum est un art, enfin en tous les cas une forme artistique, on ne dit pas qu'il y a de la musique pour hommes et de la musique pour femmes. Et donc, le parfum, c'est avant tout celui qu'on a envie de porter.
Tout simplement.
Alors, tout simplement. Et en dépit des cloisonnements, en fait, par genre. Alors évidemment, quand le marché s'est mis en place au 19e siècle, il a bien fallu communiquer à un plus grand nombre, puisque avant, la parfumerie était essentiellement de la parfumerie sur mesure. Hein. Le parfum était, depuis l'Antiquité, quand même destiné aux dieux et aux rois, aux puissants, et ensuite, plus récemment dans l'histoire, aux personnes, à une certaine élite. Et donc, ces élites avaient leur parfum personnel, leur parfum sur mesure. Quand ça s'est démocratisé, il a fallu parler à un plus grand nombre et donc on a décidé qu'il y avait des parfums pour hommes et des parfums pour femmes. Enfin, dans un premier temps, surtout des parfums pour femmes. Parce que l'homme, au 19e, il n'est pas là pour se poudrer et se parfumer comme le libertin du 18e. Il est là, c'est le pater familias, il est là pour être dans l'autorité familiale et surtout aussi gagner sa vie de façon sérieuse. Donc, forcément, au 19e siècle, on va trouver surtout des parfums pour femmes. Puis les hommes vont utiliser des eaux de cologne, des lotions, enfin des produits de propre essentiellement. Et puis, peu à peu, quand même, il y a un marché masculin qui se constitue. Mais ce que l'on voit, c'est que les hommes ont longtemps shippé aux femmes leurs parfums, puisqu'ils n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la main. Et puis, ensuite, les femmes sont aussi venues chez les hommes pour prendre des parfums qui leur manquaient. Et c'est la niche, qui est une parfumerie alternative qui a émergé dans les années 1990, qui va réconcilier les genres et recommuniquer sur le fait que le parfum, c'est avant tout une odeur, celle que l'on aime, celle qu'on a envie de porter sur soi.
Depuis le début de cette émission, Elisabeth de Fedeux, vous avez utilisé beaucoup de termes comme le mot accord, comme le mot note, qui font penser effectivement au vocabulaire de la musique. Et vous le dites très clairement dans votre dictionnaire amoureux du parfum. Il y a beaucoup de correspondance entre l'univers de la musique, l'univers du parfum, l'harmonie, la dissonance, la composition aussi, jusqu'à l'orgue à parfum. L'orgue de parfum, c'est quoi exactement cet
orgue? L'orgue du parfumeur, oui, parce que finalement, vous l'avez compris, le parfum, c'est comme un son, ce sont des vibrations. Donc, naturellement, on a utilisé essentiellement le vocabulaire de la musique, même si on n'utilise pas que, on n'emprunte pas que à la musique son vocabulaire, on parle aussi de la palette du parfumeur, d'une architecture. Mais c'est vrai que l'orgue du parfumeur, c'est ce meuble qui est très joli, qui était un meuble en bois à l'origine, qui est comme un orgue, tout simplement, si ce n'est que les touches sont remplacées par des flacons qui contiennent des matières premières. Et elles sont classées d'une certaine manière, des graves aux aigus, avec différents classements. Et à partir de cet orgue, le parfumeur va créer. Alors aujourd'hui, l'orgue du parfumeur est beaucoup plus grand qu'il n'était au XVIIIe et au XIXe siècle, mais il a toujours cette forme assez cylindrique et ces petits flacons qui sont là comme des touches en fait, d'un instrument pour l'aider à produire non pas du son, mais des senteurs.
Alors un compositeur de musique va écrire une partition?
Oui.
Que va écrire le parfumeur?
Une formule.
Une formule. Alors ça, évidemment, c'est un secret industriel.
Ah oui, oui, oui.
On ne peut pas la divulguer. On peut la deviner, justement, oui. Quand on a un nez éduqué.
Alors, il y a quand même aujourd'hui, on a quand même un matériel, notamment ce qu'on appelle la chromatographie, qui permet d'avoir presque la fiche identité d'un parfum. Mais le parfumeur a des petits tours dans son sac et il va, comme on dit, verrouiller sa formule. Il la verrouille notamment, alors c'était la grande spécialité de Jacques Guerlain, avec des bases. Et des bases qui sont déjà des parfums en soi, si vous voulez. Donc en fait, il multiplie les combinaisons pour éviter que l'on pénètre trop dans sa formule et qu'on la reproduise. Parce que là aussi, on a des contre-types, hein, on a des plagiats, c'est comme tout, si vous voulez.
Il y a évidemment une entrée contrefaçon dans le dictionnaire. Ça,
forcément.
C'est inévitable. En plus, il y a plusieurs niveaux de prise de conscience du parfum, si j'ose dire. Hein. Vous expliquez la pyramide olfactive qui a été décrite par un parfumeur qui s'appelait Jean Carl.
Tout à fait.
C'est toujours d'actualité, ça?
Oui, même s'il y a certains parfumeurs qui n'aiment pas qu'on parle de pyramide olfactive. Mais c'est vrai que, si vous voulez, quand on parlait tout à l'heure de l'orgue à parfum, les matières sont classées, donc, selon leur type d'odeur. Moi, je dis toujours les graves, les aigus. Puis il y a aussi, bien sûr, des matières plus ou moins volatiles. Et dans un parfum, si vous voulez, ce que vous allez sentir en tête, ce sont les matières qui sont les plus fusantes, les plus volatiles, qui vont tout de suite, en fait, jaillir du flacon, comme le disait Baudelaire. Et c'est celles que vous allez percevoir tout de suite. Et puis ensuite, il y en a qui sont plus lourdes, plus rémanentes. Donc ce sont celles qui seront sur le fond du parfum. Et puis vous avez aussi des matières qui palpitent durablement, mais qui vont s'effacer devant les matières plus lourdes, et ce sont celles qu'on aura en cœur. Et c'est pour ça qu'il y a une forme de pyramide, parce que c'est comme dans un orchestre, toutes les matières premières ne vont pas jouer leur partition en même temps. Alors après, il y a un ensemble, bien sûr, il y a un accord général hein, qu'on entend, il y a une perception générale qu'on entend comme en musique, mais on peut percevoir comme ça des sons au fur et à mesure du débouché du flacon et de la vie du parfum sur votre peau.
Merci beaucoup Elisabeth de Fedeux d'être venue dans VMDN. Je rappelle que votre dictionnaire amoureux du parfum est disponible chez Plon. Moi j'ai appris vraiment plein de choses, il y a plein de mots, même il y a des mots que je n'avais jamais entendus auparavant, par exemple le mot opoponax.
Ah oui, c'est un de mes mots préférés.
Voilà, je laisse les auditeurs et les lecteurs le découvrir. Merci encore.
Merci.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Un anniversaire à présent, un anniversaire au goût un peu amer. Il y a 10 ans, en mars 2011, dans le contexte des printemps arabes, naissait la révolution syrienne, un mouvement pacifiste contre le régime du président Al-Assad, qui s'est transformé, vous le savez, en conflit armé. Plus de 5 millions de personnes ont ainsi fui ces violences, et parmi elles, l'artiste Najah Al-Boukaï, dessinateur. La Maison de la Poésie organisait il y a quelques jours, samedi dernier, une soirée autour de ses œuvres. Fanny Blechner l'a vue pour nous par écran interposé, bien sûr.
Que n'a-t-on pas entendu 10 ans durant pour justifier l'abandon du peuple syrien à son sort?
C'est par cette question posée par l'historien et éditeur franco-syrien Farouk Mardambe que s'ouvre la soirée. L'indifférence donc face aux témoignages accumulés sur la situation en Syrie depuis 10 ans. Une situation que le dessinateur Najah Al-Boukaï lui connaît bien.
J'ai passé plusieurs mois dans les geôles du régime syrien et j'ai vu des choses qui sont terrifiantes et douloureuses. Donc j'ai commencé à témoigner de ma mémoire, tout ce que j'ai vécu. C'est en arrivant au Liban que j'ai osé de faire ces dessins, parce qu'à ta main je n'osais pas le faire. C'était assez dangereux pour moi.
Il est ensuite arrivé en France. Ses dessins s'affichent sur l'écran, des gravures en noir sur fond bleu, des corps décharnés, au regard vide, subissant des tortures.
Mes dessins ne sont pas faits pour attirer les larmes des yeux. Ce n'est pas ça mon but. Je dessine, j'illustre, je témoigne ou je dessine pour moi-même. C'est des dessins, ça rentre doucement dans l'esprit, dans les yeux, puis dans le cerveau.
Dans le texte qu'il lit, l'écrivain Laurent Godet justement évoque la puissance des dessins qui continuent de défiler.
D'un trait incisif, le scalpel du dessin vous tranche les paupières. Impossible de se détourner de cela, de l'offrande de ces feuilles que l'on contemple, une à une, avec une attention sidérée.
Il nous interroge aussi sur le rôle des médias dans cette crise.
Être informé, c'est une première étape, normalement. C'est pas une finalité en soi. C'est une première étape vers la réaction, en fait. Et un exemple comme la guerre de Syrie ou comme d'autres dans le passé nous montre que cette réaction, elle est inexistante ou lente. Et donc, la frustration naît.
Alors, à quoi bon organiser des soirées artistiques comme celle-ci ?
Il y a une émotion à savoir qu'on continue à penser à eux, à parler d'eux, à vouloir que ça change là-bas. C'est aussi en solidarité avec les Syriens et le peuple syrien.
Une solidarité universelle, même l'homme de théâtre Wajdi Mouawad, dans son texte, crée un parallèle avec le travail de peintres qui ont témoigné des tortures des Khmers rouges.
Là et là, ce sont les mêmes corps détruits, les mêmes visages labourés, l'électricité, les sacs, les pendaisons, les viols, les bébés lancés contre le mur. C'est toujours l'impossible inimaginable. Et la même cohorte de gardiens qui, s'habituant à tout cela, s'énerve à force de s'ennuyer.
Et les femmes en sont également victimes. C'est à elles que Nancy Houston a décidé de s'adresser, alors que ces images de corps d'hommes s'ancrent dans nos pupilles.
Toutes les victimes ne sont pas des hommes, bien sûr, mais tous les bourreaux sont des hommes. Si les hommes se comportent comme ça, si on croit Darwin, et je crois beaucoup Darwin, c'est que ce sont des tactiques qui ont fonctionné. Il faut arrêter de récompenser l'agressivité masculine.
Cette soirée, en plus de susciter notre émotion, ouvre des portes de réflexion. La musique, percussion ou des guitares donnent un rythme au silence. Nancy Houston s'assoit au piano.
Le mieux que je puisse faire, c'est d'apporter quelque chose comme une matinée de printemps. Quelque chose de totalement limpide, un rondo de Beethoven en do majeur, qui est simplement la base de l'air pur, l'eau pure auquel nous devrions tous avoir droit.
Car le tyran est encore là, nous rappelle Wajdi Mouawad, ajoutant une seule œuvre de Najah Al-Boukaï suffirait à ouvrir un procès pour condamner les criminels.
Sur la noirceur du soleil, sur le sable des marées, sur le calme du sommeil, sur mon amour retrouvé.
Ouais, c'est par cette chanson de Bernard Lavilliers que se clôt le spectacle. Le recueil de textes lus et de dessins intitulé « Tous témoins » est publié aux éditions Actes Sud. Quant à l'exposition des œuvres de Najah Al-Boukaï, elle est en cours à la galerie Fête et Cause à Paris. Et la porte reste ouverte malgré la pandémie. Une pause et le journal sur RFI. On se retrouve demain avec Frédéric Brunkel pour son récit « Homme des tempêtes » paru chez Grasset. Et vous m'en direz des nouvelles.
Retrouver la mémoire pour ne jamais oublier.